Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 2 mai 1991.
Puisqu'il n'y a plus de questions à propos de l'intellect agent, nous avançons. Nous avons donc rappelé au plan philosophie du vivant, c'est-à-dire la philosophie qui analyse nos opérations vitales, qui précise les 3 degrés de vie qui sont en nous, vie végétative, vie sensible, passionnelle et vie spirituelle. Dans cette vie spirituelle, on a essayé de comprendre la place exacte de l'intelligence et de la raison. On distingue bien ces deux plans de l'intelligence qui juge, qui discerne, qui cherche la vérité, et le raisonnement. Le raisonnement qui est notre manière particulière d'être intelligent. C'est-à-dire d'être intelligent de la façon la plus pauvre qui soit. Il y a des gens qui raisonnent énormément et qui ne sont pas très intelligents. Et même souvent, hein, le raisonnement, c'est le refuge des pécheurs. Vous voyez, ils raisonnent à perte de vue. Le monde d'aujourd'hui raisonne à perte de vue. N'est pas très intelligent. C'est très curieux. Le jugement est comme enfoui par le point de vue du raisonnement. Je crois que c'est constatable, ça. C'est le primat de la logique. La logique est tout à fait à l'aise dans les raisonnements. Parce que dans les raisonnements, la logique joue un rôle. Pour l'intelligence, la logique est science. Tandis que lorsqu'elle étudie l'universel. Tandis que dans le raisonnement, elle est tout à fait à l'aise. Et elle joue un rôle important en distinguant les différents raisonnements. Là, je ne vais pas ici les différents raisonnements. Au point de vue vital, c'est beaucoup moins intéressant. La vie spirituel est avant tout l'appréhension qu'on assimile, le discernement du jugement et l'aspect du raisonnement qui est analogue à la croissance. On a fait un parallélisme, du reste, intéressant, qu'il ne faut pas oublier, mais un parallélisme qui implique un raisonnement analogique. Comme il y a dans la vie végétative, ces 3 aspects, l'assimilation. Vous en apercevez quand vous avez mal à l'estomac. Vous êtes trop mangé. Vous assimilez mal. Le point de vue de la croissance et le point de vue de la procréation. Les 3 grands aspects de la vie végétative. Et végétative implique ces 3 moments. La vie végétative est fondamentale à notre vie humaine. Je dis bien fondamentale. C'est-à-dire qu'elle dispose et ne détermine pas. Un être humain qui est déterminé par sa vie végétative est un triste bonhomme. C'est bien évident. Parce qu'il est analogue aux animaux. Souvent, le rythme de notre vie peut dépendre de ce point de vue végétatif. Petit déjeuner, grand déjeuner, souper ou dîner. Alors on est bien ponctué par là. Et puis on dort. Entre deux, il y a le travail. Entre deux, il y a le travail. Alors ça, c'est la vie sensible et passionnelle. Et les raisonnements intellectuels. Il y a la vie végétative. Puis, il y a la vie anarchique qui est sensible et passionnelle. La vie végétative n'est pas anarchique. Vraie vie végétative. C'est même le premier moment de l'éducation. Vous éduquez les êtres humains à ne pas manger n'importe comment et à ne pas manger n'importe quand. Et quand vous commencez le dérèglement de la vie végétative à manger n'importe quelle heure et tout le temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça se manifeste tout de suite. Tenir bon entre les repas, on ne mange pas. C'est élémentaire. Mais c'est pas toujours appliqué. La vie sensible, c'est une vie anarchique. Elle n'a pas de finalité. La vie végétative a une finalité. Une finalité immanente, l'assimilation. Une finalité de dépassement, la procréation. Finalise notre vie végétative. Ça, c'est sûr. Et l'assimilation est une finalité immanente pour la vie végétative. Il faut vivre. Et vivre, c'est réparer les dégâts des fatigues. Alors, il faut réparer. Et quand justement l'assimilation se fait mal, il y a quelque chose qui ne va plus du tout. Alors, à ce moment-là, la vie sensible, la vie affective, passionnelle, est anarchique. Elle va dans tous les sens. Elle n'a pas de finalité propre, si ce n'est la jouissance, qui n'est pas une finalité. La jouissance passionnelle. On sait très bien ce que c'est. Alors, c'est intéressant d'étudier ce terrain volcanique, anarchique, que représentent dans notre vie les passions. Ce que représente le domaine imaginatif. L'imagination et les passions. C'est volcanique, ça va dans tous les sens. C'est important de le reconnaître et de voir qu'il n'y a pas de finalité dans ce domaine-là. On peut essayer de l'analyser. Alors on a la grande analyse du concupiscible et de l'irascible. On a l'analyse des sens externes et des sens internes. On analyse ce labyrinthe volcanique. Plus ou moins, ça dépend. Ça dépend des moments. Et puis il y a troisième degré de vie. On retrouve une finalité, et c'est même là où on a la vraie finalité, la vie de l'esprit. Dans cette vie de l'esprit, on étudie en premier lieu l'intelligence. Et dans l'intelligence, on retrouve une assimilation intentionnelle, qui n'est pas une finalité. On retrouve un discernement par le point de vue du jugement, et on retrouve une croissance par le raisonnement. Une croissance qui fait des nouvelles découvertes. Le raisonnement inductif. Le raisonnement inductif est un raisonnement inventif. Je découvre des domaines que je n'avais pas découverts avant. Les principes propres, les causes. Et puis j'exploite. Raisonnement déductif. On exploite tout ce qu'on connaît, tous les principes qu'on connaît. Et puis, on découvre encore raisonnement a posteriori. Il y a trois grandes formes de raisonnement. Ça, il faut bien les comprendre. Il y a trois grandes formes de raisonnement, trois grandes formes de croissance. Ma vie intellectuelle. c'est-à-dire le raisonnement dans la critique, où l'on essaie de revenir non pas au principe, mais au fondement. C'est un raisonnement qui consiste à décrire. C'est un raisonnement qui applique une description, une description qui va du complexe au simple. Raisonnement révolutif, voyez, on passe du complexe au simple pour trouver quels sont les fondements. C'est le raisonnement propre de la critique, qui est un raisonnement particulier parce qu'il se fait au niveau de l'intelligibilité, au niveau de ce qui est assimilé et de ce qui est rejeté. On analyse à ce moment-là le développement, le labyrinthe de la pensée. Comment la pensée peut se développer dans des sens divers. C'est un raisonnement résolutif. Je crois que c'est les quatre grandes formes de raisonnement. Cherchez s'il y en a d'autres. Je ne crois pas. Mais c'est intéressant de se poser la question et de voir s'il y a des raisonnements autres que ces quatre. Vous voyez, quand Foucault essaie de donner le raisonnement, qui est un raisonnement d'archéologue, de retrouver la source. En réalité, c'est le fondement, c'est pas la source, c'est le fondement. C'est ce que fait les fouilles quand on fait des fouilles. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des fouilles? On essaie de saisir les niveaux différents de civilisation. Et quand vous pensez qu'à Jérusalem, le sol actuel par rapport au sol de Jésus, ça fait quelques mètres. Ça s'est accumulé. Vous voyez ça très très nettement quand vous visitez le lieu de Notre-Dame de Sion. On croit avoir retrouvé le lieu de la flagellation, le lieu du tribunal. Jésus a été en face de Pilate. On voit tout descendre. Et on retrouve le sol qui doit être le sol que Jésus a foulé. Et c'est ça l'archéologie. Quand vous êtes à Istanbul, vous voyez des quantités de choses qui se sont accumulées. Et vous sentez très bien qu'il faudrait creuser et faire ça soigneusement, parce que si vous ne le faites pas avec beaucoup d'attention, vous télescopez, et vous donnez un coup de pioche trop rapide, et vous saccagez tout, et vous ne le retrouvez plus. C'est très curieux, ça, quand vous regardez Rome, et voyez, toutes ces méthodes archéologiques, on peut employer une méthode archéologique pour notre pensée. C'est la méthode du devenir, c'est retrouver le trajet du devenir. C'est la méthode archéologique qu'on applique pour l'évangile de Saint Jean. On emploie une méthode archéologique. C'est impossible que Jean ait composé ça d'un tout. Non. Il faut essayer de remonter. Premier Jean, dernier Jean, troisième, deuxième, premier. Et vous essayez de trouver la couche initiale. Vous voyez, on comprend très bien ce genre de raisonnement. Et c'est très à la mode. Très à la mode. Foucault, c'est très à la mode. Faites une bonne dissertation avec la méthode de Foucault, vous êtes sûr de traiter comme un homme très intelligent. Rien n'est plus intelligent aujourd'hui que les archéologues. Parce qu'on vit un âge de repli. On ne sait plus ce que c'est que la finalité. Et quand la finalité disparaît, il n'y a plus que le fondement. C'est déjà quelque chose. Et au fond, tous les raisonnements aujourd'hui sont par voie de raisonnement. C'est très très intéressant d'essayer de comprendre ça. Alors c'est un raisonnement très particulier, le raisonnement de l'archéologue. C'est le raisonnement du vécu et de retrouver les couches successives. Vous faites ça pour l'inter aussi. Quand vous voyez les labourée. Et quand vous voyez, il est... Comment le fleuve a creusé. Ah, le fleuve qui passe actuellement, c'est le vécu actuel. Qu'est-ce qu'il était il y a quelques milliers d'années? Il n'était pas là du tout. C'était de votre part. Alors ça vous pensez le vécu actuel et le vécu ancestral. Le vécu ancestral, on a tous des ancêtres qui n'ont pas du tout le même vécu que nous. Quel était leur vécu? Vous retrouvez ça. Alors, où on creuse, où on remonte. Pour le fleuve, on remonte. Et pour une ville, on creuse. Pour trouver quel fondement. Mais c'est toujours la couche première qu'on essaie de trouver. Donc, réfléchissez à ces quatre ou cinq grandes formes de raisonnement. L'induction, c'est capital. La démonstration, a priori, a posteriori, et puis ce point de vue archéologique. Alors vous pourriez encore avoir un autre raisonnement, mais qui serait encore une démonstration, simplement ça change. C'est le raisonnement d'un avocat, le raisonnement d'un journaliste. C'est intéressant à étudier, parce qu'on voit souvent ça ne tient pas. Alors c'est intéressant d'avoir un petit instinct critique là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il cherche. Il cherche la vérité, il cherche le vraisemblable. L'avocat très nettement cherche le vraisemblable. Il cherche à persuader. Donc il se sert d'exemple. Il se sert de témoignage. Mais c'est la différence aujourd'hui du témoignage et de la contemplation. De la théologie. Le témoignage n'est pas. Alors, quel est ce genre de raisonnement du témoignage? C'est un raisonnement rhétorique. Chercher tous les labyrinthes de notre intelligence. En philosophie du vivant, on regarde tous ces labyrinthes. On regarde les diverses finalités. Où c'est la vérité? Où c'est le vraisemblable? La finalité, la vérité tend vers la science et la contemplation. Le vraisemblable tend vers le témoignage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont sensibles qu'au témoignage. À cause de leur affectivité. Très très développée. L'affectivité cherche le témoignage. C'est plus facile. Le raisonnement, il faut être intelligent. Il faut que l'intelligence et développer son cheminement propre et dépasser le point de vue purement affectif. Alors c'est sûr qu'on voit qu'il y a eu un moment où le raisonnement était tout, tellement tout qu'il y a une réaction violente, le témoignage. Mais le témoignage, quand il prend toute la place, appelle une réaction violente de l'intelligence. Faut essayer de comprendre ça. Ça, c'est la vie de l'intelligence. Et la vie de l'intelligence prend ses cheminements multiples et divers. Je ne peux pas ramener toute ma vie spirituelle à ma vie intellectuelle. La vie de l'esprit ne se ramène pas uniquement à la vie intellectuelle. Sauf si je suis cartésien. Descartes ramène la vie de l'esprit à la vie de l'entendement. Je crois que Descartes n'a jamais été père. Et Descartes n'a jamais été vraiment l'ami. Il avait beaucoup de relations, des quantités de relations européennes. Comme la limite, ce sont des Européens à titre de relations multiples. C'est le danger quelquefois de parler trop de l'Europe parce qu'on perd ses racines. Alors on n'a plus que des relations. Alors, il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'il y a en plus de l'esprit. Pour Descartes, et c'est là la grande faiblesse de Descartes, il faut bien la regarder, parce qu'on est tous un peu cartésiens. sur des Grecs. On a oublié. Oui, oui, j'ai fini de visiter les cimetières grecs. C'est très significatif. C'est très intéressant de visiter les cimetières. Vois-tu, artistique. Il faut y aller pieusement, c'est évident, mais on peut y aller aussi comme témoin. Parce que c'est un témoin de l'aspect religieux du cimetière. C'est très intéressant à ce point de vue-là.
Me fait découvrir la personne.
troisième. Et qu'on a pris trois, on va en prendre un quatrième. Jusqu'au moment où on roule en dessous de la table. Et ça se termine comme ça, le banquet de Platon. C'est très significatif. Ça, c'est l'amour passionnel qui aime la répétition. L'amour spirituel est au-delà de la répétition. Parce qu'on touche une personne. C'est peut-être pour nous le signe le plus net du dépassement de l'amour spirituel par rapport à un amour passionnel. Un amour passionnel ne connaît pas la fidélité. Puisque j'aime quelqu'un pour moi et en fonction de la jouissance qu'il me produit, qu'il me cause. Donc, si c'est en raison de la jouissance que je l'aime, s'il ne produit plus pour moi cette jouissance, je ne l'aime plus. Il n'y a pas de fidélité. La mesure de mon amour, c'est la jouissance. Tandis qu'au contraire, si j'aime quelqu'un pour lui-même, ah, c'est autre chose. C'est la personne que j'atteins. Et si j'atteins la personne est un certain absolu. C'est l'ami personnel que j'atteins. Donc il peut y avoir fidélité. Ça, on le verra. Je signale ici simplement le fait, la question primordiale, suis-je cartésien? Ou, en raison de l'expérience, je ne peux plus accepter Descartes? C'est très important. D'un amour spirituel. Y a-t-il une expérience d'un amour spirituel? Il y a beaucoup de personnes qui le disent. C'est en fonction de Descartes. Ils sont tous à l'école de Descartes. Et dans le langage, c'est ça qui est terrible, dans le langage français, on distingue assez facilement un homme de grand cœur. Et un homme volontaire. Cet homme a de la volonté. On sait que si on lui confie quelque chose, ça se fera. Cet homme a un très grand cœur. Parce qu'il est affectif. Je lui confie quelque chose. Il n'y aura rien qui va sortir. Il n'a pas de volonté. C'est très curieux. Hein. Dans le langage, vous distinguer l'homme de cœur et l'homme volontaire. Est-ce que c'est juste? Ou est-ce que c'est un langage qui repose sur quelque chose qui n'est pas tout à fait juste? Qui le veut? La philosophie de Descartes. On sait bien que Descartes est un des premiers philosophes qui a écrit en langue vulgaire. Et donc c'est assez normal de retrouver son influence très grande sur la langue française. Il faut se poser la question, y a-t-il un amour spirituel dont j'ai l'expérience? Et ça, c'est chacun d'entre nous à le découvrir. Moi, je ne peux pas vous le faire découvrir. Et vous devez le découvrir pour pouvoir dire, mais non, je ne peux pas accepter la théorie de Descartes, c'est impossible. Dire que la volonté, c'est uniquement pour la réalisation et l'efficacité. La volonté a autre chose à faire, elle a à aimer. Si je prends le langage de saint Augustin, alors je vois ces affirmations extraordinaires. Celui qui aime, c'est celui qui veut aimer. Oh. C'est juste un vers de Descartes. Celui qui aime, c'est celui qui veut aimer. Et celui qui veut aimer, aime. Ah, comme c'est soulageant ça. Je veux aimer, donc j'aime. Mais j'arrive pas à aimer, je n'éprouve rien. Donc je n'aime pas. Ah, est-ce que l'amour c'est éprouver quelque chose? Est-ce que l'amour se ramène à la passion? L'amour humain. La passion, je l'éprouve. Ça, c'est bien évident. Il y a des êtres sympathiques qui m'ont dit, oh, c'est merveilleux, tu es là. au grand soleil. Et elle s'assit dans les salons. Cette personne est là. Oh là 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 là. Oh là là. Avant d'entrer en soirée, elle est là. Oh, c'est effrayant. Oh, est-ce que ça va être ennuyeux? C'était qu'elle est là. Tout de suite effrayant. Oui, ça, c'est l'émotion. Les salons, c'est l'émotion. Et la philosophie des salons, c'est la philosophie de Descartes. intéressant comme position. Je la crois pas juste. Mais c'est intéressant. Elle existe. Parce que, voyez, on cherche le mot. On ne cherche pas la réalité. Or, une bonne topique ne doit pas s'arrêter au mot. À quel moment est apparu ce que représente cet appétit spirituel qu'on a appelé volonté? Saint Thomas nous dit que l'appétit spirituel, c'est la volonté. À quel moment y a-t-il eu cet appétit? Appétit, ça veut dire désir. Cette soif spirituelle de rencontrer un ami. Aristote, dans son éthique, à Nicomaque, parle de la philia, donc de l'amour d'amitié. Il montre que cet amour d'amitié, c'est un peu le sommet de son éthique. Et l'éthique, pour lui, repose sur un acte volontaire. Alors, il étudie explicitement le volontaire. Le volontaire et l'involontaire. Il y a beaucoup d'actes dans notre vie qui sont involontaires. Il y a des personnes qui mettent beaucoup de temps à se réveiller. Quelquefois pas avant midi. Ils sont un peu somnambules avant. Avant, comme je te pousse. Il y a beaucoup de peine à se réveiller. C'est difficile. Après le repas de midi, je serai un tout petit peu plus lucide. Peut-être. Parce qu'il y en a qui... Même après le midi. Il n'y a que le soir. La lucidité augmente. Vous voyez, il y a des brouillards qui ne se lèvent pas avant midi. Il y a des brouillards qui même restent après-midi. Puis, le soir, un tout petit peu de lumière. Un acte volontaire. Parce que tant qu'on n'est pas réveillé, va comme je te pousse. Donc on est tout simplement commandé par des nécessités vitales. On a besoin de manger à midi. Alors on descend au réfectoire. On mange. Mais pourquoi vous mangez? Je sais pas. J'ai faim. C'est pas très finalisé. J'ai faim. Des quantités de gens vivent à ce niveau-là. Conditionnement du vécu. pas encore la volonté.